Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série très très importante, l'ascension du vainqueur et son triomphe. Nous en sommes à l'étude numéro 25 et le titre sera « L'enlèvement et la première résurrection ». Chers amis, la suite de ces études sont tellement importantes que je dois vous avouer que cela nécessite, dans mon cas, la prière et l'aide de l'Esprit Saint. Car nous sommes responsables devant Dieu et peut-être plus vite qu'on le pense, pour certains comme pour moi, et donc je prends cela très au sérieux. J'ai dit le titre, c'est l'enlèvement et la première résurrection. La parole de Dieu dit « Maranatha, notre Seigneur vient ». 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22. L'âge présent est un temps de Pâques. Il a commencé avec la résurrection du Rédempteur et se terminera avec la résurrection des rachetés. Entre ces deux Pâques s'accomplit la résurrection spirituelle de ceux qui sont appelés à la vie. Romains, chapitre 6, versets 4 à 11, et Colossiens, chapitre 3, verset 1. Et cela pour être des lumières brillantes, selon Philippiens, chapitre 2, verset 15, et également cela se passera entre deux épiphanies de la lumière éternelle. Notez 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, et Tite, chapitre 2, verset 13. Vous pourrez noter quelques-uns de ces versets. Ce n'est pas toujours possible parce que je ne peux pas me permettre de m'arrêter trop longtemps. Donc, vous pouvez réécouter un de ces CD pour noter encore tout ce que vous pensez nécessaire. Il est important que vous puissiez contrôler dans vos Bibles. Dans la jouissance de la première, nous allons vers la seconde Pâque. Nous allons vers la résurrection de la tête garantissant la résurrection des membres. Vous allez comprendre, l'espérance de l'Église a pour objet l'enlèvement ou première résurrection. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. L'espérance de l'Église a pour objet le tribunal de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. L'espérance de l'Église a pour objet les noces de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Et l'espérance a pour objet le gouvernement mondial à venir. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 et 3. Premièrement, nous avons l'époque de l'enlèvement. Je dis bien, nous avons l'époque de l'enlèvement. Tout d'abord, notez les deux résurrections. Dans l'Ancien Testament, la résurrection pour la vie éternelle et la résurrection pour l'opprobre et la honte éternelle sont vues en un seul tableau. Notez Daniel, chapitre 12, verset 2. Pendant son ministère terrestre, notre Seigneur Jésus les présentait de la même manière. Saint Jean, chapitre 5, versets 28 et 29, et Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15. Notez cependant, Luc, chapitre 20, verset 35, j'ai pris la version Darby, mais toutes les versions se valent. Il n'y a que parfois un synonyme qui change pour aider à mieux comprendre certains passages. J'ai dit Luc 20, 35, où Jésus-Christ parle de résurrection d'entre les morts. Mais la révélation prophétique, en progressant, distingue au moins deux événements importants. La résurrection des justes avant l'établissement du royaume messianique et la résurrection générale après le royaume à la fin du monde. La clé de cette distinction, c'est Apocalypse chapitre 20, versets 4 et 5. Ils reviennent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans seront accomplis. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas tout facile pour des débutants chrétiens à assimiler. Alors, il ne faut pas avoir peur de réécouter un tel CD. Je continue. Par ailleurs, le Nouveau Testament, loin de parler d'une résurrection générale et d'un seul jugement final des justes et des injustes, mentionne une résurrection d'entre les morts, une première résurrection, dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, une hors résurrection d'entre les morts, Philippiens chapitre 3, verset 11. Il fait mention aussi de division ou classe à l'intérieur de la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 15 à 24, et montre que des périodes plus ou moins longues séparent ces faits. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. La fin, c'est-à-dire le reste des morts. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 22 à 24. La glorification du Christ inclut la participation des saints qui sont ses membres à une résurrection spéciale, semblable à la sienne, une résurrection d'entre les morts. Saint Marc, chapitre 9, versets 9 et 10, et Saint Luc, chapitre 20, versets 35. Cette dernière expression et d'autres similaires apparaissent 34 fois en relation avec la résurrection du Christ. Par exemple, la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, et Galates, chapitre 1, verset 1, et 4 fois en rapport avec la résurrection des siens, Saint Marc, chapitre 12, verset 25, et Saint Luc, chapitre 20, verset 35, et notez encore Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 2, où l'on a résurrection d'entre les morts, et Philippiens, chapitre 3, verset 11. Or, résurrection d'entre les morts. Tout cela, il faut soigneusement le relire dans vos Bibles, car ce n'est pas évident de comprendre du premier coup. Je vais essayer de redire cela sans mentionner les versets bibliques, parce que ce sera mieux pour comprendre. J'ai dit, nous avons l'époque de l'enlèvement. Tout d'abord, les deux résurrections dans l'Ancien Testament, la résurrection pour la vie éternelle et la résurrection pour l'opprobre et la honte éternelle, sont vues en un seul tableau. Pendant son ministère terrestre, notre Seigneur Jésus les présentait de la même manière. Mais la révélation prophétique en progressant distingue au moins deux événements importants. La résurrection des justes avant l'établissement du royaume messianique et la résurrection générale après le royaume à la fin du monde. La clé de cette distinction, il revient donc à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Les autres ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans seront accomplis. Par ailleurs, le Nouveau Testament, loin de parler d'une résurrection générale et d'un seul jugement final des justes et des injustes, mentionne une résurrection d'entre les morts, une première résurrection, une hors résurrection d'entre les morts. Il fait mention aussi des divisions ou de classes à l'intérieur de la résurrection et montre que des périodes de plus ou moins longues séparent ces faits. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. La fin, c'est-à-dire le reste des morts. La glorification du Christ inclut la participation des siens qui sont ses membres à une résurrection spéciale semblable à la sienne, une résurrection d'entre les morts. Cette dernière expression et d'autres similaires apparaissent 34 fois en relation avec la résurrection du Christ. Par exemple, la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, et Galates, chapitre 1, verset 1, et 4 fois en rapport avec la résurrection des siens, saint Marc, chapitre 12, verset 25, et saint Luc, chapitre 20, verset 35, notez encore Actes des apôtres, chapitre 4, verset 2, où l'on a la résurrection d'entre les morts, et Philippiens, chapitre 3, verset 11, hors résurrection d'entre les morts. Donc, cette résurrection est, quant à sa place, la première résurrection. Die Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 20, versets 5 et 6. Quant à sa nature, c'est une résurrection d'entre les morts. Saint Luc, chapitre 20, verset 35, version Darby. Quant à son caractère, une résurrection des justes. Saint Luc, chapitre 14, verset 14. Quant à son but, une résurrection pour la vie. Saint Jean, chapitre 5, verset 29. Et Daniel, chapitre 12, verset 2. Heureux et saints sont donc ceux qui ont part à la première résurrection. Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Deuxièmement, nous avons les jours de Dieu. Avec la première venue du Christ, ont donc commencé dans le calendrier de Dieu les derniers jours. Actes chapitre 2 verset 17. Les premiers chrétiens déjà faisaient commencer le temps de la fin avec l'incarnation. Hébreux 1, verset 2 et 1er épître de saint Jean, chapitre 2, verset 18. Christ est le but vers lequel tendaient les âges antérieurs. Hébreux, chapitre 26, et cela a été confirmé par le professeur Franz Delitzsch. La première apparition fut le commencement de la fin et avec sa seconde venue commencera la fin de la fin, toujours selon, j'ai dit, Franz Delitzsch. Ainsi, en Christ, les fins et les buts des âges sont venus jusqu'à nous. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. L'Église de Christ est le but de l'histoire. Au sens néo-testamentaire, l'histoire de la fin, ce n'est donc pas seulement l'histoire de la fin à venir, mais toute l'histoire du salut et son développement progressif. En Christ est venu le commencement de l'accomplissement. Tout depuis sa venue est donc déjà histoire du temps de la fin. Présentement, par exemple, nous avons primo le jour du salut. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Le jour où la grâce sollicite le pécheur. Hébreux, chapitre 4, verset 7. C'est l'heure de la pleine proclamation du salut. Saint Jean, chapitre 16, verset 25. C'est l'heure de l'adoration du Père en esprit et en vérité. Saint Jean, chapitre 4, verset 21 à 24. Le but en est, secondo, le jour de Dieu. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 12. La nouvelle création des cieux et de la terre, le jour de l'éternité. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Entre ces deux jours s'étend donc, tierso, le dernier jour. Ça, c'est une longue période. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8, qui inclut la résurrection des justes. Notez Saint Jean, chapitre 6, versets 39 et 40, et le verset 44, et le verset 54, ainsi que toujours Saint Jean, chapitre 11, verset 24, ainsi que le jugement des perdus. Saint Jean chapitre 12, verset 48. Comme le royaume messianique s'étend entre ces deux événements, il doit durer plus d'un millier d'années. Apocalypse chapitre 20, verset 5. Sans doute commence-t-il avec l'enlèvement au jour de Jésus-Christ. Notez s'il vous plaît Philippiens chapitre 2 verset 16, chapitre 1 verset 6 et le verset 10, ainsi que 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 14, Éphésiens chapitre 4 verset 30, 2 Timothée chapitre 1 verset 12, chapitre 4 verset 8, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13, deuxième épître de Pierre chapitre 1 verset 19, Hébreux chapitre 10 verset 25, ou le jour du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2 à 4. Le jour de Yahvé, des prophètes de l'Ancien Testament. Joël, chapitre 2, verset 1 et 2. Et chapitre 3, verset 14. Tout cela pour se poursuivre pendant tout le royaume glorieux du Messie à travers ces jours-là. Notez Jérémie, chapitre 3, verset 16, Joël, chapitre 3, verset 1 et 2, Zacharie, chapitre 8, verset 23, et finir avec le jour du jugement. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 15, chapitre 11, verset 22 et le verset 24, et toujours Saint Matthieu, chapitre 12, verset 36, et la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 17, jour des rétributions pour les hommes et les anges. Jude, verset 6. La comparution finale devant le grand trône blanc. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Et deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Et chapitre 3, verset 7. et Romains chapitre 2, verset 5. Tout cela est très difficile parce qu'il faut lire plus tard, quand vous aurez un peu du temps, certains de ces versets, de ces indications bibliques, pour bien comprendre tout ce que j'essaye de vous communiquer, parce que je reconnais que c'est pas du petit lait. Le moment exact de l'enlèvement ne peut pas être précisé. Il ne nous est pas donné de connaître ni l'époque ni l'heure. Actes, chapitre 1, verset 7, Saint Matthieu, chapitre 24, verset 36, et Saint Marc, chapitre 13, verset 32. Toute hypothèse à ce sujet serait sans fondement et sans fruit, comme le montrent les contradictions des plus grands esprits qui ont voulu en percer l'énigme. Luther espérait la fin du monde pour 1556. John, le célèbre commentateur, l'attendait en 1667. Amos Comenius en 1672, Isaac Newton en 1715, H.A. Bengel en 1836, sans parler des dates avancées par les adventistes du septième jour, que mon frère aime particulièrement, et les témoins de Jéhovah, etc. Voici, je viens bientôt, disait le Christ. Il annonce donc son retour comme proche. Ailleurs, dans la parabole des vierges, il dit « L'époux tardait », Saint Matthieu, chapitre 25, verset 5. Et dans celle de l'homme de haute naissance, qui reçut le royaume, Jésus raconte qu'il alla dans un pays éloigné, Saint Luc 19, versets 11 et 12, et n'en revint que longtemps après, Saint Matthieu 25, verset 19. Le temps de la gloire est donc à la fois proche et éloigné. La leçon qui s'en dégage est que nous avons à veiller et prier. Saint Matthieu 25, verset 13, Saint Marc, chapitre 13, verset 32 à 37, et Saint Luc, chapitre 12, verset 40. Dieu nous veut vigilants et nous veut prêts en tout temps pour l'éternité. Que nos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, toi et moi, soyons semblables à des hommes qui attendent leur maître. Saint Luc, chapitre 12, versets 35 et 36. Quant aux détails relatifs à ces questions, il y a toujours eu bien des divergences d'interprétation, même entre des chrétiens également érudits et saints. Ceci doit nous inciter à la tolérance, au rejet de tout dogmatisme et à l'étude persévérante. C'est dans cet esprit que nous portons nos regards vers le temps de la fin, vers la consommation ou vers l'achèvement de l'âge, vers la parousie ou la venue royale du Christ, vers l'Apocalypse ou révélation et manifestation du Seigneur, vers l'Épiphanie ou son apparition brillante, Saint Jean chapitre 1, verset 5. Deuxièmement, nous avons la nature de l'enlèvement. Il est dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Quant à sa nature, l'enlèvement revêt 5 caractères complémentaires. Il est à la fois arrachement, rassemblement, transfiguration et triomphe et béatitude. Donc, premièrement, nous avons dit arrachement. En effet, par l'enlèvement, les chrétiens sont en quelque sorte arrachés aux détresses de l'âme et du corps. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2 et le verset 4, ainsi que Philippiens, chapitre 3, verset 21. Ils sont arrachés également aux persécutions et à l'oppression, à la sphère totale du péché, Romains 6, verset 6, et de la mort, Romains chapitre 7, verset 24. Tout cela en vue du repos avec tous les saints. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, et au jour de la rédemption qui est à venir. Éphésiens, chapitre 4, verset 30, et Romains, chapitre 8, verset 23. C'est donc un acte de la grâce divine, de cette grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 13, et qui nous libérera de tout péché. C'est un acte de la miséricorde divine. Miséricorde que nous attendons pour la vie éternelle. Jude, verset 21, et qui doit nous libérer de toute souffrance. La grâce enlève le péché et la miséricorde enlève la souffrance. C'est un acte de l'omnipotence divine, omnipotence par laquelle il nous rendra conformes au Rédempteur avec un corps nouveau. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, et cela par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens, chapitre 3, verset 21. Saint Paul exprime cette action de la puissance divine par un terme particulièrement expressif, harpazo, 1 Thessaloniciens 4, verset 17, qui veut dire empoigner, prendre avec violence et soudainement. C'est ce mot-là que Saint Luc emploie dans le livre des Actes pour décrire la manière dont les soldats romains arrachèrent Saint Paul à la foule de ses oppresseurs. Acte 23, verset 10. Dans le premier Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10, Saint Paul parle vraisemblablement de l'enlèvement qu'il appelle délivrance de la colère à venir. Oui, arraché avec puissance, et qu'il emploie encore en 2 Timothée, chapitre 4, verset 17, pour dépeindre la manière dont Dieu l'a délivré de la gueule des lions. C'est à un signal donné, avec un cri de guerre, au son de la trompette, que tout cela aura lieu. Deuxièmement, nous avons le rassemblement. C'est le rapprochement des membres et de la tête. S'il nous enlève, c'est pour que nous soyons toujours avec lui. Vous avez compris de qui il s'agit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Il a dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alléluia. Saint Jean, chapitre 4, versets 2 et 3. C'est encore la réunion des membres les uns avec les autres. Vivants et morts seront enlevés ensemble pour la première fois. Pour la première fois, l'Église de tous les temps et de tous les pays sera enfin rassemblée. Jusqu'à ce jour-là, il y a des églises, Apocalypse 22, verset 16, où l'église d'une génération vivante en un certain moment. Mais alors, là, ce sera l'ascension, non pas d'une personne, non pas du fameux Élie solitaire, mais de toute la multitude des saints rassemblés par la toute-puissance de Dieu. Troisièmement, nous avons la transfiguration. Cela veut dire ceux qui seront encore en vie seront transformés en un seul instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Ils échangeront leur corps d'humiliation pour un corps de gloire. Philippiens 3, verset 21. le corps corruptible fera place à un corps incorruptible, le corps mortel à l'immortalité. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 53. Moi, je m'en rends très bien compte. À 86 ans, mon corps n'est plus du tout le même qu'à l'âge de 50 ans. Et je ne vous dis pas que je dois parfois serrer les dents. Enfin, quatrièmement, nous avons le triomphe. La véritable base d'opération de l'ennemi, ce sont les airs, car c'est de là que les puissances démoniaques gouvernent le monde présent. Il y a des milliers de chrétiens qui ne croient pas ni diable ni aux démons, ils croient plus ou moins à un bon Dieu, une sorte de bon Dieu de Noël, Père Noël, qui vient avec ses petits souliers dans la cheminée. Non, non, non. Non, oubliez cela. Donc j'ai dit, c'est de là que les puissances démoniaques qui existent véritablement gouvernent le monde présent. Satan, qui est leur chef, est appelé pour cela le prince de la puissance de l'air. Vérifiez Éphésiens, chapitre 2, verset 2, et le chapitre 6, verset 12. Or, c'est dans ce lieu de sa puissance, au quartier général de l'ennemi qui a été vaincu par Jésus-Christ, que a lieu la rencontre du vainqueur avec ses armées victorieuses. Le triomphe ne peut être plus complet. Et cinquièmement, nous avons la béatitude. C'est là l'espérance bienheureuse des rachetés. Tite, chapitre 2, verset 13, il est dit, je vous enverrai, en effet, il enverra. Je vous reverrai également. Et votre cœur, ton cœur, cher ami, se réjouira et nul ne vous ravira, personne te ravivera votre joie. J'ai eu de la peine à exprimer cela car c'est pas la même chose qu'en allemand. Évidemment. Donc, personne pourra vous enlever du Seigneur. Personne. Ça sera votre joie. Saint Jean, chapitre 16, verset 22. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Il est dit, réveillez-vous et tressaillez de joie. Tressaillez de joie, vous, les habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Ésaïe, chapitre 26, verset 19, et chapitre 35, verset 10, toujours Ésaïe, selon les versions bibliques catholiques, Abbé Crampon et les moines de Marézou et d'autres, c'est marqué Isaïe, c'est la même chose. Isaïe, donc, encore, chapitre 51, verset 11. Troisièmement, nous avons le corps spirituel à venir. Nous avons sa nécessité. Pourquoi faut-il une résurrection corporelle? Je vous le demande. Le corps n'est pas une prison pour l'âme. Il appartient à l'essence de l'homme. Sans corps, l'homme est nu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 3. De plus, Dieu a fait de ce corps le temple du Saint-Esprit en sorte qu'il ne peut être laissé désert. Romains chapitre 8 verset 11 et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Le péché ayant provoqué la séparation de l'esprit et de l'âme d'avec le corps. Sans une résurrection corporelle, quelque chose des effets du péché resterait dans le racheté. L'homme a été créé comme un tout. C'est donc comme un tout qu'il veut le racheter, pas seulement la moitié. Si le chrétien revenait à la vie tel un pur esprit seulement, il ne connaîtrait qu'une continuation partielle de vie et par là une rédemption partielle. Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. C'est pourquoi aucune partie de ses rachetés ne peut rester dans la mort. C'est la mort toute entière, qui sera engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 54 à 57 et notez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 4 et encore Ésaïe, chapitre 25, verset 8, et Osée, oui, Osée, chapitre 13, verset 14. La rédemption n'est pas une rédemption hors du corps, mais la rédemption, c'est une rédemption du corps tout entier. Romains, chapitre 8, verset 23. Nous avons donc sa réalité. Preuve en est le corps de résurrection de Jésus-Christ. N'oubliez jamais cela. Il peut être vu et il peut être touché. Il peut même manger du miel et du poisson. Vérifiez. Saint Jean, chapitre 20, verset 27. Saint Luc, chapitre 24, verset 40 à 43. Et Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 41. Donc, selon le témoignage du Seigneur lui-même, il se compose de chair et d'eau, les ossements. Il a dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bel et bien moi, c'est une réalité. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Saint Luc 24, verset 39. Le ressuscité est le modèle et comme en quelque sorte le prototype de tous ceux, toi et moi, qui auront atteint la perfection. Première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2, et Romains, chapitre 8, verset 29. Leur corps sera rendu conforme à son corps de gloire. Philippiens, chapitre 3, verset 21, et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49. À cause de cela, nous sommes en droit de chercher en son corps glorieux les traits fondamentaux de notre propre corps futur. Et ce que je vais dire, je vais le répéter deux fois pour une amie pasteur. Si le nouveau corps est appelé spirituel en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44, cela ne signifie pas immatériel. De même que notre présent corps animal n'est pas constitué seulement d'une âme, ces termes spirituels et animal désignent la nature de base de ces deux sortes de corps. Dans le corps terrestre, l'âme domine, alors que c'est l'esprit qui gouverne le corps céleste. Je répète, dans le corps terrestre, l'âme domine, alors que c'est l'esprit qui gouverne le corps céleste. Pour souligner la réalité de ce corps céleste, l'Écriture sainte parle d'une résurrection des corps qui sont dans les tombes. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. Saint Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Ce corps d'humiliation sera glorifié. Philippiens 3, verset 21. Ce corps mortel sera rendu à la vie. Romains 8, verset 11. Ce corps semé dans la corruption sera ressuscité incorruptible et immortel. 1 Corinthiens 15, versets 42 et 43, et les versets 53 et 54. Et n'oubliez pas de noter Job, chapitre 19, versets 25 et 26, selon ma version Darby, et selon la plupart des versions allemandes. S'il n'y avait pas de corps spirituel, ni aucune relation directe entre le corps présent et celui qui est à venir, pourquoi les tombeaux s'ouvriraient-ils? Pourquoi même une quelconque résurrection? Oui, il doit y avoir un lien entre l'ancien et le nouveau corps. Même dans le corps terrestre, ce n'est pas la matière qui est l'élément déterminant. Les atomes y sont en effet en perpétuel mouvement. Tous les 7 années, un changement complet de matière se termine de telle sorte que cette période, une fois passée, il ne reste pas un seul atome de la matière antérieure. Et pourtant, c'est le même corps. Dans l'ancien corps corruptible, il doit exister un facteur indestructible qui se revêtira à la résurrection du domicile céleste. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2. Ainsi, comprend-on que ce corps soit appelé la semence du corps futur dans le proche avenir. L'âme est pour ainsi dire l'aimant qui effectue l'assemblage des millions d'atomes du corps. À la mort, elle perd son pouvoir magnétique et les atomes se dispersent. Mais ce pouvoir lui est rendu à la résurrection à un degré bien plus élevé et beaucoup plus parfait. Nous ne pouvons nous faire aucune idée de la matière céleste, seul un langage figuratif est possible. Elle est à la matière terrestre ce que le diamant étincelant est au carbone noir duquel il est formé, ou si vous voulez, comme la pierre précieuse resplendissante comparée à la terre d'où elle est tirée. Et pour terminer, chers amis, nous avons quatrièmement les sept aspects glorieux du corps ressuscité. On ne peut décrire le corps nouveau. L'Écriture sainte y fait seulement quelques allusions figuratives. Premièrement, la spiritualité, le corps d'humiliation, qui est notre corps actuel, est un corps animal. Le corps de gloire, lui, sera spirituel. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 44 à 46. C'est donc l'esprit et non l'âme qui y régnera. Je dis cela pour mon ami pasteur. Répétons. Le corps d'humiliation est un corps animal. Le corps de gloire sera spirituel. 1 Corinthiens 15, versets 44 à 46. C'est donc bel et bien l'esprit, et non plus l'âme, qui est beaucoup plus près du corps charnel, c'est donc l'esprit qui y régnera. Deuxièmement, nous avons la docilité. Notre corps actuel est bien souvent un obstacle, en tout cas le mien pour le moment, à 86 ans évidemment. C'était beaucoup moins le cas à l'âge de 50 ans. Donc notre corps actuel est bien souvent un obstacle limitatif et restrictif. Je ne peux plus m'inscrire aux Jeux Olympiques. Le corps de gloire, lui, par contre, sera entièrement avantageux. Alors que le corps animal conserve une certaine indépendance à l'égard de l'esprit, et même s'y oppose souvent, même ouvertement. Romains chapitre 7, verset 5 et verset 23, ainsi que 1 Corinthiens, j'ai bien dit Romains 7, chapitre 7, vous l'avez compris, verset 5 et 23. Et notez maintenant 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, et Romains chapitre 6, verset 6. Le corps de gloire, lui, il sera complètement régi par l'âme. Non. Niet, par l'esprit, dans une dépendance sans réserve, instrument parfait et docile à sa disposition. Troisièmement, la supériorité. Le corps animal, en partie indépendant par rapport à l'esprit, et au contraire entièrement dépendant des conditions naturelles et par là grandement limité. Le corps de gloire, dépendant quant à l'esprit et par contre libre à l'égard des conditions naturelles. Avec notre corps actuel subsiste donc la nécessité de se nourrir et de, on peut dire, le danger qui nous guette de toutes sortes de maladies et de malheurs. Mais avec le corps glorieux, nous sera donnée la liberté royale, bien au-delà des contingences de la matière, de l'espace et du temps. Ainsi, nous pouvons manger, selon Saint Luc, chapitre 24, versets 41 à 43, mais sans que manger soit nécessaire. Donc, il y a là supériorité sur la matière. Nous pouvons apparaître dans une pièce dont les portes sont entièrement fermées. Saint Jean, chapitre 20, verset 19. Saint Luc, chapitre 24, verset 31 à 36. Nous aurons la liberté à l'égard des lois de l'espace. Il est revêtu d'immortalité dans l'éternité. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 54. Donc, liberté à l'égard des limitations du temps. Quatrième moment, il y a l'exaltation. Le corps actuel est un corps d'humiliation, on l'a bien compris. Philippiens, chapitre 3, verset 21, et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 43, version Darby. Mais, le corps à venir est un corps glorifié. Le manque de dignité du présent corps est manifesté par la maladie et la mort, par la conception, la naissance et la nutrition. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13. Il appartient donc à la dignité du corps à venir que enfin cessent ces conditions diverses. À la résurrection, les hommes, les femmes ne prendront point de compagnons. L'homme ne prendra pas une femme et la femme n'aura pas besoin d'un homme. Mais nous serons comme les anges de Dieu dans le ciel, tout en n'étant pas tout à fait comme les anges. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 30. Cela ne signifie pas qu'ils seront eux-mêmes des anges, mais sur ce point, semblable aux anges. Personne ne devient un ange à sa mort, mais nous serons en communion avec eux. Hébreux 12, verset 22. Cinquièmement, la félicité. Les douleurs et les peines sont le lot du corps d'humiliation actuel. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 2 et 4. Les joies célestes sont réservées au corps de gloire. Ils n'auront plus jamais faim ni soif. Apocalypse 7, versets 16 et 17. Il n'y aura plus ni murmure, ni cri, ni souffrance, car les premières choses auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Semé corruptible, il ressuscite incorruptible. corruptible, semé méprisable. Il ressuscite glorieux, semé dans la faiblesse. Il ressuscite absolument plein de force, contrairement à moi aujourd'hui. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 42 et 43. Sixièmement, la splendeur. En effet, le corps d'humiliation est une pauvre tente. Le corps glorieux est un palais transparent, lumineux. Les justes resplendiront dans le royaume du Père. Saint Matthieu 13, verset 43. Les justes resplendiront comme de la neige éblouissante. Saint Marc, chapitre 9, verset 3. Les justes resplendiront comme les étoiles. Daniel, chapitre 12, verset 3. Les justes resplendiront comme l'éclat du firmament. Daniel, chapitre 12, verset 3. Les justes resplendiront comme le soleil dans sa force. C'est pas moi qui le dis. Saint Matthieu, chapitre 13, verset 43, chapitre 17, verset 2, et dit Offenbarung, donc Apocalypse, chapitre 1, verset 16. Les justes resplendiront comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans la lumière de sa gloire. Philippiens, chapitre 3, verset 21, et 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Les sages brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, eh bien, ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel, chapitre 12, verset 3. Donc, chers amis, face à cette gloire à venir, le corps terrestre est comme la semence comparée à la fleur pleinement épanouie. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 39 et versets 42 à 44. De même que la splendeur du coquelicot est comme enfermée dans une petite graine, la puissance du chêne en un gland banal, ou l'abondance du pommier en un minuscule pépin, ainsi en est-il de la gloire à venir, impossible à discerner dans la faiblesse du corps présent. Et pour terminer, septièmement, la conformité à Christ. Les rachetés lui seront rendus semblables. Là est le trait le plus glorieux. Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Nous serons rendus conformes au corps de sa gloire. Philippiens, chapitre 3, verset 21. Portant sur nous son image, afin qu'il puisse être le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, verset 29, Colossiens 1, verset 18 et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Le premier homme est de la terre, la poussière. Le second homme est du ciel. Tel est celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47 à 49. Chers amis, nous terminons donc ensemble, si vous le voulez bien, par la prière. Dieu Tout-Puissant, tu es l'Éternel, tu es sans commencement de jour et sans fin de vie. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes toujours. Tu es toujours le même. Nous ne pouvons comprendre combien cette pensée est redoutable et en même temps consolante pour nous. Notre existence sur cette terre est d'une si courte durée, si précaire, si fragile, qu'à chaque instant, nous pouvons l'avoir touchée à son terme. Pourrions-nous donc compter les jours qui s'écoulent sans en ressentir un douloureux effroi, puisque chaque heure nous fait approcher plus près de la tombe? Mais tu es l'Éternel, et tu nous as dit dans ta sainte parole que les choses invisibles pour nous maintenant sont éternelles aussi. S'il nous faut donc tout quitter ici-bas lorsque tu retires de nous ton souffle, l'éternité s'ouvre pour nous et là il n'y aura plus de fin de jour ni de vie. Mais ô Seigneur, que sera-t-il pour nous cet avenir éternel? Pouvons-nous aller avec confiance et sans crainte vers le moment solennel qui nous transportera dans la gloire ou nous précipitera dans l'abîme? Nous sommes assurés que tu nous recevras dans ta miséricorde. Oui, si Jésus-Christ, si ton Fils est notre unique espérance, et si nous ne fondons que sur lui l'assurance de notre paix avec toi, mais en même temps, nous devons travailler à notre salut en remplissant religieusement nos devoirs, en accomplissant ta volonté, en observant ta sainte loi. Nous te supplions donc, ô notre Dieu, de nous soutenir et de nous fortifier par ton Esprit Saint. Sans ton secours, nos efforts seraient vains, et cependant, ces efforts sont nécessaires, indispensables, puisqu'ils peuvent seuls manifester la sincérité de nos désirs de conversion et de salut et notre obéissance envers toi. Seigneur, nous répétons encore, comme nous devons le faire sans cesse, aie pitié de nous et reçois-nous en grâce par le saint nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que si vous faites partie du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous l'avez accepté un jour dans votre cœur, dans votre âme et esprit, vous êtes son enfant, et de ce fait, il vous aime. À demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série d'études. À bientôt, chers amis. Au revoir.